Mesdames, Messieurs, nous allons donc reprendre notre exploration du Panthéon mazdéen. Et je vais commencer, comme il est usuel, par résumer notre itinéraire de la dernière leçon. Bien, nous avons vu, en résumé rapide, ce que nous avons acquis, c'est ceci. C'est que la structure du corpus des Hashts correspond approximativement, mais sûrement, à la structure des noms du jour du mois, qui elle-même dérive de la structure d'un rite appelé Havani, donc d'un rite qui commence au matin, qui commence au lever du jour. Il y a eu deux accommodements pour rendre ce calendrier plus complet, pour qu'il représente mieux, qu'il représente de façon plus parfaite l'ensemble du Panthéon. Entre le jour d'Ahura Mazda, le premier jour, et le jour de Mitra, le 15e, ont été insérés les Amushaspenta, conçus en liste ouverte, comme d'ailleurs le Yasna 1 le fait lui-même dans sa première strophe. Et entre les Amushaspenta sont insérés la liste des corps célestes, soleil, lune, étoile Tishtria. Enfin, lors des deux dernières semaines, entre Mitra, 15e jour du mois, et son acolyte Raman, on a inséré les dieux nocturnes, les dieux des périodes de la nuit, Fravashi, Srausha, etc. Donc voilà. Ensuite, notre deuxième acquis, au fond, de la dernière leçon, c'était « je vous ai livré ». On essayera de compléter, on essayera de préciser, on va voir ce qui se présente à nous dans la suite de l'enquête. Un projet de chronologie relative, où je vous proposais de considérer qu'il y a une phase globale où l'on met sur pied une liturgie longue, celle qui a produit le rite Havani que nous possédons, et en même temps la constitution du genre Yasht, c'est-à-dire des formules en Yazamaïdé. Le calendrier est postérieur. Et postérieurement au calendrier encore, la constitution du livre des Yasht en tant que corpus. Bien, ça, c'est notre deuxième conclusion. Alors, maintenant, nous allons poursuivre les choses. Et avant d'abandonner les généralités, mais extrêmement importantes, que nous sommes en train d'observer, pour l'exhaustivité, mais aussi pour en tirer une conclusion qui ne manquera pas d'intérêt, nous devons peut-être considérer la dernière des articulations du temps selon le Yasna. 1-9. C'est l'articulation des Ratusarda. Ça se présente de manière assez désespérée. Selon le Yasna 1-9, le Yasna 1-9 fait la liste des Ratus de l'année, qu'il appelle Yairia. Ce sont les fêtes agricoles dont vous vous souvenez, qui ne sont mises en rapport avec aucune divinité particulière. Et lorsque la liste de ces périodes de l'année, des festivals qui marquent le cours de l'année, n'est-ce pas, on mentionne simplement, énumérativement, sèchement, sans préciser, les Ratusarda. J'ai fait jadis une hypothèse qui me paraît aujourd'hui assez flou en pensant qu'il s'agissait des ratous des espèces animales. Mais il me semble aujourd'hui que la liste du Visprat infirme cela. Il n'est pas facile de comprendre le mot sarda. C'est la première ambiguïté. Il y a ici une ambiguïté fondamentale. Il y a deux manières de l'interpréter. Ou bien ce sont aussi des ratous annuels. D'autres divisions de l'année que celles des festivals en question. C'est possible. Linguistiquement, c'est possible parce que le mot « sarde » pourrait être rapproché dans ce cas-là du mot sanskrit « charade qui désigne précisément l'automne, mais que l'on pourrait utiliser comme désignation de l'année. Nous le faisons avec printemps, hein, parfois, c'est pas le nom d'une saison, valant métonymiquement en quelque sorte pour le nom de l'année. Cela, c'est c'est une allusion à une autre division de l'année. L'autre hypothèse, c'est considérer que nous avons affaire à une manifestation d'un mot sanskrit qui désigne la troupe des maroutes et qui est charda. Charda, parfois au neutre. Mais ce mot-là, déjà, pose un problème étymologique en sanskrit lui-même, car la racine chard, qui semble en tout cas avoir produit ce dérivé, signifie montrer sa force, et puis cela désigne la troupe par quel processus sémantique cela n'est pas précisable. Bien, alors, maintenant, pour essayer d'avancer sur cette question, il faut voir comment la variante du visprat 1 présente ses articulations. Le visprat 1 commence de la manière suivante. Le visprat 1, c'est une variante de la strophe Yasna 1.9 et elle seule seulement. Et elle seule seulement. Alors, le premier paragraphe du visprat 1 mentionne, ça ne figure pas dans le Yasna 1, les espèces animales, les ratous des espèces animales, qui ne portent pas un nom précis et qui ne sont mises en rapport avec aucune divinité particulière. Ensuite, deuxième strophe, le visprat fait la liste, elle est commune avec le Yasna 1, des rats toute l'année, Yairia. Et les fêtes agricoles que vous connaissez sont énumérées. Nous les connaissons. Ensuite, troisième strophe, un texte. Mais c'est un texte que nous connaissons bien. Nous en avons beaucoup parlé l'an dernier. Les Staota Yesnia, les éloges sacrificiels, le corpus des Staota Yesnia, au mépris des nuances, pour ce qui nous concerne ici, disons que les Staota Yesnia, en gros, correspondent à ce que nous appelons la Vesta ancien. Hein, la Vesta ancien, donc le cœur du Yasna. Or, c'est un témoignage important que cette énumération des parties constitutives des Staota Yesnia par le Visprat 1, parce que cela nous démontre qu'à l'époque de la rédaction de ce texte, la Vesta ancien était très exactement celui que nous avons, dans le même ordre, se présentant dans le même ordre de succession. Les cinq gathas, et entre la première gatha et la seconde, le Yasna Haptakaiti. C'est l'ordre des Staota Yesnia, selon le Visprat 1. Ensuite, une mention sèche également, purement énumérative des Ratu Saroda. Enfin, en cinquième strophe, commence l'énumération des parties constitutives des Staota Yesnia. Vous voyez que c'est un curieux ordre énumératif. L'hypothèse que j'ai faite qu'il s'agirait des espèces animales est un peu compromise, car on a remarqué qu'entre la première strophe où sont énumérées les différentes espèces animales, selon leur habitat, hein, l'air, l'eau, etc., eh bien, il y a une insertion, deux insertions, celle des rats toute l'année et celle et la mention des Staota Yesnia en tant que corpus. Donc, ces Ratu Sarda sont mentionnés entre la mention des Staota Yesnia comme corpus et puis leur analyse. Or, l'analyse a ceci d'important, non seulement qu'elle nous montre que l'Avesta ancien de l'auteur du Visprat est le nôtre, indépendamment de cela, elle présente la particularité que chaque gatha et le Yasna Haptankaiti, chaque gatha et le Yasna Haptankaiti patronne un texte en avestique récent. Il y a un an seulement, c'était en 2009, qu'Alberto Cantera a perçu, parce qu'il fallait le percevoir, qu'en réalité, nous avons affaire à une allusion à une forme de rite où la récitation de l'Avesta ancien comportait l'intercalation de certains textes. Chaque gata patronnant le texte intercalé. Or, que sont ces textes? Eh bien, après la gata Ahunavaiti, un texte concernant Gena, les femmes, littéralement. Mais c'est un mot qui est utilisé au sens de déesse, hein, au sens les déesses. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. On peut faire l'hypothèse qu'il s'agit des Fravashi, ça ne m'enchante pas. Ça ne m'enchante pas parce que dans le Yasna 1, le texte concernant les Gena est lui aussi mentionné et il est clairement distinct du texte consacré aux Fravashi. Je pense que cette hypothèse ne se recommande pas particulièrement. Après le Yasna Haptankhaiti, un texte consacré à la déesse Anahita, la déesse rivière Anahita, c'est le Yasht 5 que nous possédons. Après la Gata Ushtavaiti, un texte concernant les montagnes. On peut y reconnaître partiellement, peut-être, le Yasht 19. Après la Gata Spenta Mainyu, un texte consacré à Vertrakna. Ce pourrait être notre Yasht 14. Après la Gata Vahukshatra, Mitra, le Yasht 10. Après la Gata Vahishto Ishti, la Dharma Afriti, qui fait toujours partie de notre Yasna et que nous avons analysé, c'était l'ultime texte que nous ayons analysé l'année dernière, si vous vous souvenez, qui n'est consacré à aucune divinité en particulier. Alors, nous avons affaire, comme l'a montré donc Alberto Cantera, à un rite qui correspond, mutatis mutandis, à ce que nous appelons un videvdat sadeh, c'est-à-dire où les chapitres du videvdat sont insérés entre certains chapitres du yasna, et tout particulièrement les gata et le yasna haptankhaiti. Nous aurions ainsi la trace ici d'un autre rite que l'on pourrait appeler analogiquement hein, un yasht sadeh, c'est-à-dire un rite où le texte, certains yasht, sont insérés entre les chapitres des gathas. C'est très intéressant à voir. Hein. Vous voyez qu'il faut être très prudent lorsqu'on manipule les notions de monothéisme et de polythéisme. Je vous y ai toujours invité, n'est-ce pas, puisque le texte témoin, prétendument témoin, en tout cas du monothéisme, qu'est l'Avesta ancien, est ici clairement articulé avec des intercalations du témoin privilégié du fameux polythéisme mazdéen. Voilà un rite ancien et très curieux que nous trouvons ici. Mais je voudrais aussi faire remarquer ceci, et c'est pour cela que ce n'est pas seulement par amour de l'exhaustivité que j'ai voulu vous donner toutes les listes de Ratu. Il y a autre chose. C'est que ceci nous amène tout de même à accorder une certaine attention, contrairement à ce qu'avait proposé Chervu, à la notion de grand yasht, à la notion de grand yasht. Car si nous nous en remettons à la liste du Yasna 1, et que nous la complétons par celle du Visprete 1, nous avons eu des allusions au Yasht 5. Un ensemble peut-être unique à l'époque, consacré au soleil, à la lune et aux astres, 6, 7 et 8. Le Yasht 10 à Mitra. Le Yasht 13 au Fravashi, qui lui figure dans le Yasna 1. Le Yasht 14 à Vrtrakna et le Yasht 19. Ça signifie 8 textes sur les 21 Yashts que nous possédons. Et ce sont les yashts les plus longs. Hein, ce sont les yashts effectivement les plus longs. Alors, nous n'allons pas tirer de cette apparence de longueur que présentent ces textes les conclusions esthétiques. Hein, je ne sais pas si ce sont les plus beaux. C'est une affaire de goût. Chervu, à ce point de vue-là, a certainement raison. Nous n'allons pas non plus, nous allons nous méfier aussi de la conclusion qui veut que leur langue serait plus ancienne, plus archaïque, ou tout au moins plus correcte. Mais tout de même, n'est-ce pas, ce sont des textes qui ont eu un passé rituel avant de figurer dans le corpus des Yajd. Ils ont eu un passé rituel. Donc il est très probable que leur transmission, dans la mesure où nous pouvons le constater avec la faiblesse de nos moyens manuscrits, il est donc très probable que ces textes ont été transmis avec plus de soin que les autres et qu'ils ont reçu une certaine attention de la transmission plus tôt que les autres. Donc, la notion de grand yacht, je ne veux pas la réhabiliter, mais elle n'est pas entièrement dépourvue de sens. Certains textes ont eu un destin différent des autres avant de figurer dans le corpus des Yajd. Alors maintenant, peut-être le moment est venu d'abandonner cette nécessaire analyse du matériel que nous possédons pour peut-être reprendre la liste des dieux dédicataires des Yajd, qui sont environ ceux des jours du mois, et afin de tenter de voir quelle est la structure du panthéon mazdéen, si vous voulez bien. Si nous allons le faire, bien entendu, avec ce souci de tenter d'établir le bilan des convergences et des divergences avec le système du sanskrit védique. Il y a bien entendu les deux dieux sacerdotaux. Attar, le feu, dans le deuxième jour de la deuxième semaine, et Hauma, le 20e Yajd. 20e Yajd, Hauma. Soma et le feu sont les divinités sacerdotales aussi du panthéon védique. Mais vous remarquerez une divergence qui est d'ordre dialectal. Le feu ne porte pas le même nom en iranien qu'en sanskrit. Nous n'avons pas Agni, mais Attar. C'est une divergence d'ordre purement dialectal. On ne peut pas la considérer comme une divergence de panthéon, une différence religieuse, etc. Enfin, nous avons des corps célestes et des départements du cosmos, comme dans le panthéon védique, le soleil, bien sûr, la lune, les étoiles, puis le ciel, la terre, le vent. Donc le ciel, l'espace céleste, l'espace terrestre et l'espace intermédiaire. Ils sont présents. Il faut toutefois ici faire deux nuances. Il y a une divergence qui est d'ordre conceptuel dans la représentation du monde entre l'Inde et l'Iran. D'abord, c'est l'importance des étoiles. Si vous vous souvenez, je ne vais pas vous raconter à nouveau l'histoire, quoi qu'elle soit belle, n'est-ce pas, du mécanisme complexe par lequel l'étoile Tichtria, l'étoile Sirius, fait pleuvoir, bien sûr. Mais la chute de la pluie est attribuable à l'action d'une étoile particulière qui s'appelle Tichtria. Aucune étoile ne joue ce rôle dans le Rig Veda. Les étoiles ne sont mentionnées dans le Rig Veda qu'à l'instrumental pluriel, parce qu'elles sont considérées comme l'ornement du ciel, le ciel décoré par les étoiles. Il n'y a pas d'autre mention des étoiles. Il y a aussi l'étoile Vanand, qui représente le dernier yacht qui représente les lumières infinies et qui, lui aussi, est lié à la production de la pluie. Là, peut-être y a-t-il, comme je vous l'avais suggéré, un problème climatique. N'oublions pas que l'Iran ne connaît pas la tempête de mousson, qui est si remarquable en Inde et qui a si profondément imprégné la pensée indienne avec le phénomène de l'orage, dont nous ne connaissons pas même le nom en avestique. Ensuite, il y a le problème du ciel. Ça, c'est plus compliqué et je ne m'y retrouve pas. Personne ne s'y retrouve, n'est-ce pas ? Le ciel, le vieux mot du ciel, diaw, n'existe pas en iranien. Il est peut-être attesté une fois, si l'attestation est sûre. Il a un sens dévique. Peut-être parce que, mais ce n'est qu'une hypothèse, pour ça je ne peux pas vous donner de solution définitive, le mot diao, ciel, ou bien la journée en védique, aurait pris un sens dévique parce qu'il y avait encore un certain sentiment linguistique, n'est-ce pas, du fait que le nom du ciel et le nom du dieu, Deva, démonisé, hein, sont liés étymologiquement, dérivent de la même racine. Peut-être que la déchéance des Devas a entraîné la déchéance du nom du ciel. C'est possible. À la place du ciel, nous trouvons deux termes, celui qui figure ici, qui figure dans la liste, qui n'a pas de yasht, mais qui figure dans la liste des noms du mois, lors dans la quatrième semaine, Asman. En réalité, Asman, nous avons l'équivalent védique, mais ce n'est pas le ciel, c'est la voûte céleste qui est faite de pierre, qui est conçue comme faite de pierre. Les lumières infinies dans la pensée iranienne se trouvent au-delà de cette voûte de pierre. Un autre mot qui peut-être a remplacé le ciel dans la terminologie du cosmos iranien est le mot Rauchar, qui n'a pas d'équivalent dérivationnel précis en indien, mais bon, la racine y est bien connue, elle a la même forme, sont restés homonymes, c'est Rauch et maître de la lumière. Raucha est peut-être nom d'un autre département du ciel, le ciel lumineux en tout cas. Bon, voilà les nuances qu'il faut faire. Ici, nous avons affaire à un phénomène un peu insaisissable, parce que la disparition de Diao est une chose que... Bon, c'est quand même une étrange situation. Bon, on a déjà discuté avec beaucoup de collègues, mais nous avons ici une langue linguistique où le nom du ciel manque. Le nom du ciel manque. Il a des substituts, bien sûr, mais des substituts imparfaits. Alors, pour le reste, quelles sont les convergences et les divergences? Eh bien, il y a beaucoup de dieux nouveaux venus. Nous avons parlé parfois de ces divinités. Il y a 2 ans, nous avons parlé des Fravashi, par exemple. L'an dernier, nous avons parlé de Srausha et d'Ashi. Or, leur nom n'a pas d'équivalent dans le panthéon védique. Mais nous avons vu qu'ils sont les allégories de phénomènes, de concepts qui ne sont pas étrangers au système védique. Fravashi, avec la racine pravar, qui désigne le choix de la cible sacrificielle. Le choix de la cible sacrificielle. C'est un phénomène indo-iranien en général. Srausha, l'allégorie des sonorités du sacrifice, à la fois la récitation des prières, mais aussi le bruit des pierres appressurées, comme nous avons vu l'an dernier. C'est commun aussi comme conception. Ashi, la déesse de l'aller-retour, la déesse de l'aller-retour qui emmène chez les dieux les offrandes des hommes et qui ramène la contrepartie, les bienfaits des dieux, vers l'ère sacrificielle. Cet aller-retour-là, ben, il est aussi, c'est une conception commune aux védiques et à l'avestique. Ben, donc, le concept n'est pas étranger, ce ne sont pas des innovations avestiques, certainement pas, mais du côté indien, ce concept-là n'a jamais été personnifié en divinité. Il n'a jamais dépassé le stade du concept abstrait pour devenir une allégorie divine. Cela nous montre simplement quelque chose que Yohanan Arten avait très bien défini en disant que tant que ce soit l'époque où l'on rédigeait des hymnes védiques, qu'à l'époque où l'on rédigeait des textes en avestique, la pensée avait gardé toute sa capacité de créer des allégories, de produire des allégories. La poétique indo-iranienne, qu'elle soit indienne ou iranienne, n'est-ce pas, est profondément créatrice d'allégories divines. Ce sont on crée des dieux comme on crée des mythes, ad hoc parfois quand il le faut. Et bien sûr, on ne crée pas toujours les mêmes, ce ne sont pas les mêmes concepts qui reçoivent finalement un statut divin de part et d'autre de l'Indus. Pour être complet, bien sûr, le Panthéon n'est pas complet, ce sont les divinités les plus importantes, elles ont des comparses souvent, mais la plupart de leurs comparses sont aussi pas des des allégories parfaitement lisibles que l'on comprend et qui donnent un statut divin à un concept sacrificiel. Je pourrais donner là le cas par exemple de la déesse Arshtat, que je devrais traduire pour être sans doute un néologisme, mais c'est le mot le plus exact, la rectilinéarité. Hein, la rectilinéarité, parce que c'est la qualité même que des prières qui doivent accéder à l'oreille des dieux. Et alors, si nous voulons vraiment découvrir dans le panthéon que nous avons sous les yeux les divinités qui sont communes à l'Iran avestique et à l'Inde védique, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux ici. C'est Mitra, IH10, et Vayu, le dieu Vayu. C'est peu, c'est peu. Il faut se demander si cette situation est normale ou non. Dans le titre de ce cours, j'ai parlé de dieux qui survivent et de dieux qui naissent, mais il faudrait préciser d'emblée, avant d'analyser le cas de l'un d'entre eux, que les dieux ne naissent pas de rien. Ils naissent d'une conception commune du sacrifice, indo-iranienne commune du sacrifice. Et ceux qui survivent ne survivent pas n'importe comment. Il y a une très grande différence, par exemple, entre Mitra, qui est en quelque sorte recyclé, peut-être devrons-nous nous occuper de lui, et Vayu, dont on ne peut strictement rien dire. Rien dire tant son yacht est peu significatif. Il n'est pas dans la liste. La divinité est mal intégrée au panthéon, elle n'apparaît que dans de très rares textes. Son ambiguïté est certes une originalité, mais non, savons pas. Son yacht n'est pas suffisamment informatif. Celui de Mitra, c'est déjà mieux. Alors, voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Elle n'a rien d'inédit. Elle n'a rien d'inédit. Lorsque j'étais étudiant dans les années 60, nos professeurs faisaient encore un très grand cas d'un article publié par Antoine Meillet en 1908 dans une revue, la Revue des Idées, une revue de vulgarisation, quatrième volume de la Revue des Idées. Cet article est accessible dans un recueil de textes de Meillet qui a été collationné en 1936 sous le titre de Linguistique historique et Linguistique générale, qui a été reproduit quelques fois depuis lors et qui fait partie de la collection de la Société de linguistique de Paris. Or, Meillet, dans cet article qui, à l'époque, était présenté comme exemplaire, faisait remarquer qu'il était impossible de parler d'une religion indo-européenne parce qu'il y avait un nombre vraiment trop limité de traits communs aux religions des divers peuples parlant une langue indo-européenne. C'est un article sceptique par excellence qui nie la possibilité même de la comparaison dans l'histoire des religions indo-européennes, nie la possibilité. La conclusion de Meillet est la suivante, c'est que pour trois domaines du moins, pour trois domaines linguistiques du moins, le sanskrit, le latin et le grec, le Dieu suprême est le même. C'est le Père Ciel. Dhyaus Pitar en indien, et vous connaissez tous Zeus Pater en grec, et Jupiter en latin. C'est le même nom, c'est le même mot. Mais c'est aussi le seul point de convergence. Il faut ajouter, bien sûr, parce que les noms sont attestés, les corps célestes, les corps célestes, le soleil, la lune, éventuellement les étoiles. Mais en dehors, aucun point de comparaison n'est possible. Toute autre comparaison est impossible selon Meillet. Et pour lui, la seule conclusion que l'on peut tirer au point de vue des conceptions religieuses indo-européennes, ce sont trois caractéristiques divines qui sont, il est vrai, fort banales. Les dieux sont célestes, par opposition aux hommes qui sont terrestres, les dieux sont immortels par opposition aux hommes qui sont mortels, et les dieux sont généreux par opposition aux hommes qui ne sont pas assez riches pour l'être. Cela, c'est une caractéristique. Cet article est aujourd'hui un peu oublié. Il est un peu oublié pour une raison que vous comprendrez. C'est que, avec les années 70, le prestige de Georges Dumézil est brutalement, qui a brutalement commencé dans les années 70, où il a, où son œuvre est tombée dans. Le domaine commun, n'est-ce pas ? Il n'est pas seulement resté dans le cadre de l'érudition scientifique même. Or, Dumézil a joué un rôle un peu paradoxal à ce moment-là, parce que, en réalité, toute la démarche de Dumézil, depuis le début de sa carrière scientifique, qui remonte tout de même aux années 20, Dumézil a été l'élève de Meillet. Au fond, Dumézil a appliqué les conclusions, tirer les conclusions pratiques de l'article de Meillet. Disons, on ne peut pas faire de la religion comparée indo-européenne en comparant des personnes divines, il faut comparer autre chose. Et ce sera l'idée qu'il y a dans toutes les religions des peuples de langue indo-européenne une structure mentale commune, à défaut d'y avoir des personnes communes. Ce sont les fameuses trois fonctions de Dumézil. Mais en même temps, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est peut-être Dumézil qui a repeuplé avec le plus de vigueur, en même temps, le panthéon indo-européen restituable. N'est-ce pas ? Nous allons en avoir un exemple immédiat avec le dieu que nous allons étudier, mais il a aussi donné vie à la comparaison du nom des Maroutes avec celui du dieu Mars, Mavort, dans les inscriptions latines archaïques, n'est-ce pas, et un certain nombre d'autres divinités. Peut-être que la concordance dont il a été le plus question les dernières années a été celle du dieu Pushan, le dieu Pushan du Veda, et le grec Pan. Mais toutes ces comparaisons, comme Meillet le disait, toutes les comparaisons que l'on peut tirer de ces noms de divinités, il y a toujours quelque part une irrégularité phonétique. Aucune de ces comparaisons n'est exempte d'irrégularité phonétique. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il faut, ce qu'il faut en penser. Le dictionnaire étymologique de Mayr-Hofer est très significatif de ce point de vue-là. Si vous consultez tous les noms de dieux védiques dans le dictionnaire étymologique de Mayr-Hofer qui ont fait l'objet d'une comparaison avec un autre domaine indo-européen, vous verrez que Mayr-Hofer mentionne bien entendu l'hypothèse, mais la considère toujours fraglich. On peut s'interroger sur la validité de la comparaison. Alors, donc voici la situation que nous venons d'observer entre le panthéon védique d'une part et le panthéon avestique d'autre part est une situation qu'on observe d'une manière plus générale lorsque l'on envisage le cas plus général des langues indo-européennes. Il y a, c'est une situation que l'on pourrait considérer comme naturelle pour trois raisons. D'abord, c'est que très peu de langues indo-européennes sont attestées pour l'époque antérieure à la christianisation. Pour ne rien dire du domaine anatolien, qui ne nous est pas utile en l'occurrence, mais les trois seuls domaines, c'est bien sûr le domaine italo-celtique, le domaine grec et le domaine indo-iranien. Ce sont les seuls exemples d'une littérature assez ancienne pour être pleinement païenne. Nous pouvons observer un autre système. Ces langues sont des langues marginales. Elles sont aux marges du domaine linguistique indo-européen, surtout si l'on porte en comparaison l'italo-celtique et l'indo-iranien. Le cas du grec est différent. Il est vraiment central, le grec. Mais n'oubliez pas que Dumézil a toujours refusé de faire intervenir le grec dans ses analyses, considérant l'originalité profonde et irréductible du système grec. Ces épigones, par contre, ont essayé depuis lors, depuis la mort de Georges Dumézil, d'un peu réveiller cette vieille problématique de savoir comment le système grec se comporte à l'intérieur d'un système indo-européen. Alors, n'oublions pas aussi que la restriction, le caractère restrictif de ce que nous comparons paraît assez normal lorsque l'on pense au terme le plus général pour dire Dieu. Le latin Deus n'a pour équivalent que le mot sanskrit indo-iranien, mais avec l'accident que vous connaissez du côté iranien, Deva. Ce sont aussi des langues marginales. Et un autre Deva ou Deus avec un autre témoin qui est un témoin lituanien, le Balt, Deva. Bien. Donc, c'est extrêmement peu de choses. Deux domaines, eux, voisins, le domaine slave et le domaine iranien, ont choisi de désigner la divinité non pas par leur caractère céleste, comme les latins et les sanskrits, mais par son caractère généreux, en faisant de Dieu celui qui partage, celui qui donne quelque chose en part. Parlons de, vous connaissez Baga en iranien. Alors, ce sont des raisons, évidemment, mais vous remarquez qu'on ne peut pas les invoquer pour l'indo-iranien. Les domaines indo-iraniens est extrêmement soudé, tant par la... on pourrait se poser la question, et bon, on peut le faire en privé, est-ce que un Indien pouvait comprendre l'avestique ? Je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que les connexions étaient visibles. Donc ce sont deux domaines linguistiquement soudés, mais aussi littérairement soudés, puisque nous avons un nombre tout de même extrêmement important de parallèles de clausules, de parallèles formulaires entre les deux domaines. Or, ici, malgré cela, cependant, les personnalités divines communes sont extrêmement rares. D'autre part, je ne voulais pas faire une opposition, mais au contraire, faire remarquer qu'il y avait tout de même quelque chose de commun, c'est ce que si les personnalités divines étaient instables, par contre, ce qui est d'une extraordinaire stabilité. Mais je ne veux pas risquer d'interprétation générale maintenant, parce qu'il faut attendre peut-être de se familiariser avec l'idée. Par contre, ce qui est extrêmement stable et extrêmement conservateur, c'est l'idéologie du rituel et du sacrifice, qui produit des dieux nouveaux de manière permanente dans la poésie avestique. Alors, je vous ai dit deux dieux communs, Mitra et Vayu, non, il y a un troisième, mais il ne fait pas partie de la liste ici. Il n'a pas de yasht dans le corpus, du moins. Il n'a pas non plus, on ne lui a pas non plus accordé un jour du mois. C'est une divinité qui semble avoir été plus ou moins négligée. Mais pas entièrement, parce qu'elle figure dans la liste des Ratu Havani, dans la liste des articulations des parties du jour. L'après-midi est la période placée sous le patronage des eaux, bien sûr, mais de quelque chose aussi qui appartient aux eaux. C'est le petit-fils des eaux, Apamnapat. Or, ce dieu est commun au Rig Veda. Apamnapat, le nom du petit-fils, Napat. Et en indien, Apam, bon, c'est le génitif pluriel du nom des eaux ou de l'eau, puisque le terme qui désigne l'eau est exclusivement pluriel, en tout cas en avestique qui se respecte, ce ne sera pas toujours dans certains textes, et en védique. Voilà donc une divinité commune, le petit-fils des eaux. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une sorte de feu particulier. C'est le feu qui brûle dans l'eau. Le feu qui brûle dans l'eau. L'eau compose son nom. Il est un descendant des eaux, leur petit-fils. Et d'autre part, tous les hymnes, tous les textes védiques qui lui sont consacrés, il n'y a que deux hymnes, vous savez, encore peut-être un selon que l'attribution de l'autre soit discutée, mais il y figure beaucoup, en tout cas dans deux hymnes. On a toute la rhétorique de la poésie védique dans ces deux hymnes consiste à exprimer de toutes les manières possibles qu'il brille et même qu'il brûle. Il brûle, mais il a cette particularité, puisqu'il brûle dans les eaux, de brûler, comme y insistent les hymnes védiques, à Nidma, c'est-à-dire sans bois, sans nécessairement sans le bois d'allumage, sans bûche, traduit Renou. Et ce feu qui brûle dans l'eau est à l'origine, d'ailleurs, du nom grec du pétrole, hein, to nafta. Ce que nous appelons le naft, c'est évidemment le traitement de Napate, le nom du petit-fils. Or, la discussion sur cette divinité paradoxale qui concilie les deux contraires irréductibles, l'eau qui éteint le feu et le feu qui éventuellement fait évaporer l'eau, eh bien, les discussions ont très mal commencé. Elles ont très mal commencé en 1863, nous sommes aux années de fondation, hein, n'oubliez pas que le premier essai sur la religion de l'Avesta, le livre de Haupt, date de l'année précédente, 1862. Et en 1863, dans un livre qui s'appelle Zoroastrische Studien, l'allemand Friedrich Windischmann s'est intéressé à Pan Napat. Windischmann, soit dit en passant, est un prêtre catholique bavarois qui est mort beaucoup trop tôt. Il est mort très vite après ce livre de 1863 parce que ses travaux sont remarquables. On pense avec regret à ce qu'il aurait pu produire dans notre discipline si la mort ne l'avait frappé aussitôt. C'est une de ces disparitions qui ont certainement été dommageables au début de l'iranologie de date ancienne. Eh bien, Windischmann, là, on lui doit cependant l'erreur de départ, le faux départ des études sur Pan Napat, où il fait remarquer de manière extrêmement explicite que le feu dans l'eau, c'est difficile d'accepter le paradoxe. Visiblement, il est mal à l'aise avec le paradoxe. Il fait remarquer que l'on insiste plus sur le côté igné en védique et beaucoup plus sur le côté aquatique en iranien. Donc, en quelque sorte, à partir de là, les discussions, les spécialistes du Veda ou de l'Avesta vont tenter d'éliminer le paradoxe. Et pendant très longtemps, les discussions vont avoir lieu pour démontrer soit qu'Apam Napat est en réalité le feu, soit que c'est un aspect de l'eau. Tenter d'éliminer un des deux membres du paradoxe. C'est les discussions de la plupart des grands indianistes jusqu'aux toutes dernières années, mais nous allons voir cela, n'est-ce pas, sont caractérisées par cette fausse discussion et la dernière intervention, je ne vous en parlerai même pas parce que elle n'est pas digne de la réputation de. Méritée par ailleurs, n'est-ce pas, de Madame Boyce, mais en 1975, dans les mélanges benvénistes, elle tentera de démontrer qu'Apam Napat est en réalité le dieu Varuna, ce qui est complètement impossible. Elle pense qu'Apam Napat en avestique est la figure de Varuna, essentiellement, dans le zoroastrisme. Bon, si bien que la première étude qui a pleinement assumé le paradoxe du feu dans l'eau et celle de Dumézil. Je crois que je vais demander à Mme Azarnouche de mettre à votre disposition la photocopie des quelques pages où Dumézil expose le problème dans Mythes et épopées, volume 3 de 1973. Donc, c'est une des. Bon, Dumézil fera encore plusieurs livres à la suite de celui-là, mais c'est peut-être le dernier livre qu'il a produit alors qu'il pouvait consulter lui-même les sources. Comme il l'a écrit, ensuite il devenait dépendant de. Ne pouvant plus bouger, il devenait dépendant de ceux qui voulaient bien lui chercher les livres. Donc c'est le dernier ouvrage, je vais dire, autonome de Dumézil. Or, Mythes et épopées sont, je ne l'ai jamais caché, selon moi, son chef-d'œuvre. Et il s'est attaqué au mythe d'Apamnapate en rappelant, en comparant quatre témoignages dans le domaine linguistique indo-européen. D'abord, l'Apamnapate indien. Il s'agit d'hymnes védiques, donc on y trouvera surtout des variations poétiques sur l'aspect paradoxal, feu haut, d'Apamnapate, mais aussi sa fonction rituelle. Or, la fonction rituelle, est, selon Dumézil, elle s'exerce, c'est celle de gardien des eaux, en quelque sorte. Il faut propitier Apamnapate lorsque l'on va chercher l'eau des libations, lorsque l'on prépare le sacrifice, lorsqu'on va chercher l'eau destinée à laver le hauma, le soma, puisque nous sommes en Inde. Et cette propitiation est nécessaire si l'on veut obtenir les eaux. Les eaux doivent. Il faut le consentement d'Apamnapate si l'on veut obtenir les eaux. C'est tout pour le domaine indien. Mais il y a, deuxièmement, le domaine iranien. Le domaine iranien. Apamnapate n'a pas de yasht. Néanmoins, il joue un rôle. Il joue un rôle et un rôle inséré dans un contexte narratif, ce qui est rare pour l'Avesta. Mais il y a bel et bien un mythe avestique où Apamnapate intervient et intervient de manière décisive. C'est au milieu même, au cœur, à l'omphalos, dirait-on en théorie littéraire, du Yasht 19 au Kwarna. Et c'est effectivement lié au Kwarna. C'est un texte difficile, les auditeurs du séminaire le savent bien. Il est surtout difficile parce que l'établissement du texte n'est pas facile à établir. On ne peut pas établir facilement le texte. Or, c'est le Yasht du Kwarna. Je vous rappelle ce Kwarna, cette curieuse substance, probablement lumineuse, mais qui, dans son nom, incarne, par son nom, sans doute, selon l'hypothèse de Lubotsky, la profusion des choses. Eh bien, ce curieux objet, dont nous ne connaissons pas bien la matérialité, fait l'objet d'une lutte entre le bon esprit, Spantamainyu, et le mauvais, Angramainyu. Les deux Manyu n'interviennent pas personnellement, ce n'est pas eux qui mènent le combat, mais en quelque sorte, ils ont leur champion. Or, le champion du bon esprit, ils en ont plusieurs en réalité, mais on ne nous raconte que le combat de deux d'entre eux. Le bon Manyu a pour champion Atar, qui est le feu, bien sûr, le feu. Et le mauvais, un serpent ou un dragon, qui est Aji Dahaka, que nous connaissons bien. C'est un des Dahaka, excusez-moi, qui est Aji Dahaka, qui est l'adversaire de certains héros des origines et qui est éliminé par eux. Or, c'est un match nul. C'est un match nul, car au moment où Atar va s'emparer du Kwarna, Aji Dahaka menace de le faire tomber à l'eau et donc de l'éteindre. Le feu a peur et ne saisit pas le Kwarna. Mais lorsque le dragon lui-même veut saisir le Kwarna, le feu le menace de le brûler, certaines parties du corps. Bien, alors le dragon renonce à prendre le Kwarna, et le Kwarna est défini peut-être dans ce texte comme étant insaisissable. Il est impossible de le saisir. Oui, donc le feu, la menace de l'eau annihile le feu, la menace de la brûlure annihile le serpent. Quelle est la clé de l'histoire ? Mais quelqu'un tout de même va s'emparer du Kwarna à la suite de ce combat. Et celui qui va s'emparer du Kwarna, c'est Apamnapat. C'est Apamnapat. Naturellement, l'opposition au feu ne vaut pas pour lui. Il est le feu dans l'eau. Donc, les raisons pour lesquelles les deux champions précédents ont été impuissants ne valent pas devant la nature paradoxale d'Apamnapat. Et lui va s'emparer du Kwarna. L'histoire où intervient Apamnapat s'arrête ici. Mais Dumézil y ajoute que, à la suite, effectivement, l'histoire continue, Dumézil ajoute que quelqu'un d'autre va tenter de s'emparer du Kwarna, qui se trouve à ce moment-là dans la mer, dans l'eau, l'eau du réservoir céleste des eaux, la mer Vurukesha. Quelqu'un d'autre va tenter de s'en emparer, mais aussi de manière infructueuse. C'est le vieil ennemi des Iraniens qui s'appelle Frangrasyan. À trois reprises, Frangrasyan se déshabille. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il se met nu, dit le texte, et il plonge dans l'eau et tente de s'emparer du Kwarna, mais selon des procédures qui ne sont pas précisées, le Kwarna s'esquive. Il s'esquive. Et Frangrasyan reste incapable de le saisir. Mais chaque fois, à chaque tentative, le déplacement du Kwarna provoque dans le réservoir céleste des eaux un déversoir. Un déversoir. Apakjara, sans vouloir dire quelque chose. Un cours d'eau qui sort du réservoir céleste et qui forme, à côté du réservoir céleste, une sorte de lac, un bassin. Hein, un bassin, un nouveau bassin. Voilà le mythe iranien que va utiliser Dumézil. Il va comparer cet ensemble indo-iranien à un mythe irlandais, celui du puits de Nectan. Nectan est un personnage de nature divine, d'ailleurs, qui possède un puits un peu particulier. Une eau qui, lorsqu'on la regarde, fait éclater les yeux. Or, sa femme, par orgueil ou, selon d'autres sources, pour se soumettre à une ordalie, tente de puiser de l'eau. Mais le principe qui se trouve dans l'eau, le principe magique qui se trouve dans l'eau, lui arrache la première fois une jambe, la deuxième fois une main, la troisième fois un œil. Et puis, la femme prenant la fuite, l'eau la poursuit jusqu'à la mer, formant ainsi un fleuve. Et c'est l'origine, dit la légende, de la rivière Boyne, en Irlande. Quatrième source, une histoire rapportée d'ailleurs par Tite-Live, dans la guerre de Rome contre les Véens, c'est le débordement du lac Albin. On est en été, alors qu'il ne pleut guère. Et malgré cela, le lac Albin va déborder. Il va dépasser le sommet des collines qui l'entourent et prendre son cours jusqu'à la mer. Un déversoir aussi qui va jusqu'à la mer. Romains consulteront les auspices. Il y a plusieurs raisons peut-être à cela, mais l'une nous dit que c'est à la suite d'une faute religieuse que Neptunus, que le dieu Neptune aurait provoqué ce, ce débordement malencontreux pour les Romains. Alors, regardez les deux noms, Nectan ou Neptunus. Voici un exemple où, d'ailleurs, Dumézil va trouver un nom indo-européen commun à des divinités. Nectan ou Neptunus semblent s'expliquer l'un et l'autre par Neptonos. Neptonos, un italo-celtique Neptonos. Bien sûr, ça rappelle Napate, mais pas parfaitement, parce que même si cette explication est correcte, c'est un exemple typique de la comparaison des noms divins dans le domaine indo-européen. Ça ressemble, mais quelque chose ne fonctionne pas bien. Et en l'occurrence, c'est l'explication du suffixe dans ce cas-ci. Qu'est-ce que onos, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela peut vouloir? Qu'est-ce que cela représente exactement? C'est l'explication linguistique du nom à chope sur le suffixe. Alors, il y a d'autres explications au nom de Neptune ou au nom de Nectan. Entre autres, les indo-iranistes connaissent bien la racine qui, d'ailleurs, celle du nom du nuage, nebula en latin, la racine nab. Bon, je signe en latin nebula et en sanskrit aussi nabas pour désigner la nuée. Peut-être que cette racine est une autre possibilité d'explication des noms de Nectan et de Neptune, bien sûr. Mais alors voilà, cela c'est pour la comparaison des noms. Ce n'est pas ce qui est essentiel dans la démonstration de Dumézil. Ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui importe, c'est évidemment la manière dont Dumézil va articuler un mythe commun. Alors, il articule cette explication, nous terminerons par là, vous aurez ainsi la conclusion de la comparaison avant que nous la passions au crible de la critique. Premier point, il y a, dans une certaine eau, un élément igné que l'on cherche à conquérir. Premier point. Un feu dans l'eau que l'on cherche à conquérir. Deuxième point, cet élément a un gardien. Cet élément a un gardien. En indo-iranien, c'est Apam Napat. En Irlande, Nectan. Pour les latins, Neptunus, le dieu Neptunus. Troisième point, le gardien veille à ce que le conquérant soit qualifié pour obtenir cet élément igné de l'eau. Dieu veille à ce que le conquérant soit qualifié. Enfin, quatrième point, s'il n'est pas qualifié, celui qui cherche à conquérir le feu dans l'eau, les eaux le punissent en débordant. Alors, voilà donc le mythe commun qui serait à la base de notre matériel. Maintenant, il faudra que nous observions, que nous analysions ça d'un peu plus près à partir de ce que nous dit vraiment le texte avestique. Mais c'est un travail que nous reporterons à la semaine prochaine, si vous voulez bien. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci.